22 octobre, notre responsabilité. Pour transformer le monde, nous devons commencer par nous-mêmes. Et dès lors, ce qui compte, c'est l'intention. Notre intention doit être de nous comprendre vraiment et non de laisser à d'autres le soin de se transformer ou de provoquer une modification extérieure par une révolution de la gauche ou de la droite. Il est important de comprendre que là est notre responsabilité à vous et à moi. Car, si petit que soit notre monde, si nous pouvons nous transformer, introduire un point de vue radicalement différent dans notre existence quotidienne, peut-être alors pourrons-nous affecter un monde plus vaste dans l'extension de nos rapports avec autrui. Octobre. Si l'esprit est absorbé. Peu importe que le changement ait lieu au niveau conscient ou inconscient, cela revient au même. Tout changement conscient suppose un effort et toute tentative inconsciente de changement suppose aussi un effort, une lutte. Tant qu'il y a lutte, conflit, le changement ne peut être que forcé et il n'y a pas la moindre compréhension. Et cela n'a plus rien à voir avec un changement. L'esprit est-il donc capable d'affronter le problème du changement, celui qui modifierait nos instincts d'acquisition par exemple, mais sans faire d'effort, en voyant simplement de manière lucide tout ce qu'implique ce besoin d'acquérir? Parce qu'on ne peut pas voir le contenu total de ce besoin tant qu'on s'efforce de le faire changer. Le changement réel ne peut avoir lieu que lorsque l'esprit aborde le problème en toute fraîcheur, pas en traînant tous les souvenirs usés datant d'un millier d'hier. De toute évidence, si votre esprit est absorbé, il vous est impossible de compter sur un esprit plein de fraîcheur et d'enthousiasme. Et l'esprit ne cesse d'être occupé que lorsqu'il voit dans toute sa vérité ce qu'il absorbe. Vous ne pourrez jamais voir la vérité si vous ne lui accordez pas votre pleine attention ou si vous traduisez mes propos sous une forme qui vous agrée ou si vous les traduisez en vos propres termes. Vous devez donc aborder l'inédit avec un esprit plein de fraîcheur. Et l'esprit manque de fraîcheur quand il est occupé, consciemment ou inconsciemment. Octobre. Le savoir est un obstacle au changement. Tout ce qui est évoqué ici exige une extrême lucidité de perception et maint questionnement. N'acquiescez pas systématiquement, mais approfondissez, méditez, mettez impitoyablement votre esprit à l'épreuve afin de tirer au clair le vrai et le faux de tout cela. Le savoir, c'est-à-dire le connu, peut-il provoquer le changement? J'ai besoin d'un savoir-faire pour construire un pont. Mais mon esprit doit-il savoir par avance en quoi va consister sa propre mutation? Si je connais déjà l'état dans lequel sera l'esprit une fois qu'il aura changé, il ne s'agit plus de changement. Ce savoir préalable fait obstacle au changement parce que cela devient un moyen de satisfaction et tant qu'il existe un centre qui est à la recherche d'une satisfaction, d'une récompense, d'une sécurité, tout changement est exclu. Et tous nos efforts ont pour base ce centre autour duquel gravite la récompense, le châtiment, le succès, le gain. Ne croyez-vous pas? C'est tout ce qui nous intéresse la plupart du temps et nous ne sommes prêts à changer que si cela nous permet de combler nos désirs. Or, un tel changement est tout sauf un changement. Donc, L'esprit qui désire connaître cet état de changement fondamental, cet état de révolution, doit se libérer du connu. Il devient alors étonnamment tranquille, silencieux. Et seul un esprit tel que celui-là vivra l'expérience de cette transformation radicale qui est tellement nécessaire. Octobre. La vacuité totale. Pour que se produise cette mutation complète au sein de la conscience, il faut renoncer à toute analyse, à toute recherche, et ne plus être soumis à aucune influence, ce qui est une tâche extrêmement ardue. L'esprit, ayant perçu ce qui est faux, l'écarte complètement, sans pour autant savoir ce qu'est le vrai. Si vous savez d'avance ce qui est vrai, vous ne faites qu'échanger ce que vous estimez faux contre ce que vous croyez vrai. Il n'y a pas renoncement, si l'on sait d'avance ce qu'on va obtenir en échange. Le renoncement n'a lieu que lorsque vous lâchez une chose sans savoir ce qui va se passer. Cet état de négation est absolument nécessaire. Je vous en prie, suivez bien cela, car c'est là que vous vous apercevrez que dans cet état de négation, on découvre la vérité. La négation consiste en effet à vider la conscience de tout le connu. La conscience est fondée sur le savoir, l'expérience, l'héritage de l'espèce, la mémoire, ce dont on a fait l'expérience. Les expériences sont toujours de l'ordre du passé, qui agit sur le présent, est modifié par le présent, pour se prolonger ensuite dans le futur. La conscience, c'est tout cela. C'est cet immense entrepôt des siècles passés. Elle n'a d'utilité que pour les aspects mécaniques de la vie. Il serait absurde de renier tout le savoir scientifique accumulé de si longue date. Mais pour susciter cette mutation de la conscience, cette évolution touchant jusqu'à ses structures mêmes, il faut qu'il y ait vacuité totale. Et elle n'est possible que lorsque survient la découverte, la perception réelle de ce qui est faux. Alors, vous verrez, si vous êtes arrivé jusqu'à ce point, que cette vacuité même suscite une révolution complète de la conscience. Elle s'est enfin réalisée. Octobre. La véritable mutation ne saurait être délibérée. Il va de soi que toute mutation individuelle entraîne un changement collectif. L'individuel et le collectif ne sont pas deux pôles distincts et opposés, bien que certains groupes politiques essaient de les séparer et de forcer ainsi l'individu à se conformer à une prétendue entité collective. Si nous pouvions démêler ensemble tout ce problème du changement, déterminer comment effectuer une mutation au niveau individuel, et ce qu'implique un tel changement, alors peut-être l'acte même d'écouter, de participer à l'enquête, pourrait susciter un changement qui ne soit pas l'effet d'une volonté délibérée. Pour moi, tout changement délibéré, tout changement lié à l'obligation, à la discipline, au conformisme, n'est en aucune manière un changement. Que ce soit la force, l'influence, une nouvelle invention quelconque, la propagande ou la peur qui vous contraignent au changement, il ne s'agit nullement là d'un changement. Et même si, intellectuellement, vous êtes tout disposé à être d'accord avec ce que je dis, je vous assure que c'est une chose tout à fait extraordinaire que de pénétrer la nature réelle de ce changement dénué de motifs. 27 octobre. En dehors du champ de la pensée. Vous avez changé d'idée, de pensée, mais la pensée, elle, reste toujours conditionnée. Que cette pensée soit celle de Jésus, de Bouddha ou de X, c'est toujours la pensée, et donc une pensée peut s'opposer à une autre. Et lorsqu'il y a opposition, conflit entre deux pensées, le résultat est une continuité modifiée de la pensée. Autrement dit, le changement est toujours limité au champ de la pensée et un changement aussi restreint est tout sauf un changement. Il y a simplement eu substitution d'idées, passage d'un courant de pensée à un autre. Ayant constaté ce processus, est-il possible de renoncer à la pensée et de mettre en œuvre un changement qui se situe hors de son domaine? Toute forme de conscience, qu'elle soit du passé, du présent ou du futur, reste évidemment inscrite dans le champ de la pensée. Et tout changement survenant dans ce champ, qui fixe les limites de l'esprit, n'est pas un changement véritable. Le changement radical ne peut avoir lieu qu'en dehors, pas à l'intérieur, du champ de la pensée. Et l'esprit ne peut en sortir que s'il en voit les confins, les frontières, et s'il se rend compte que tout changement limité à ce champ n'a de changement que le nom. Voilà en quoi consiste la vraie méditation. Octobre. Le changement réel. Le changement ne peut se faire qu'en partant du connu pour aller vers l'inconnu, et non en allant du connu vers le connu. Je vous invite à y réfléchir avec moi. Dans le changement qui s'effectue du connu au connu, il y a une conception hiérarchisée de la vie. D'un côté, vous qui savez, et de l'autre, moi qui ne sais pas. Donc, je vous vénère. Je crée un système, je cherche un gourou, je vous suis, parce que vous m'offrez ce que je veux savoir. Vous me conférez, concernant la conduite de ma vie, une assurance qui ne peut me mener qu'à des résultats positifs, au succès. Le succès, c'est le connu. Je sais ce qu'est la réussite. Elle est l'objet de mon désir. Nous allons donc du connu au connu. Et l'autorité intervient forcément. Celle de la sanction, celle du chef, du gourou, de celui qui sait par rapport à celui qui ne sait pas. Et celui qui sait doit me garantir le succès, garantir que mes efforts, que mon changement seront couronnés de succès afin que je sois heureux, que mes désirs soient satisfaits. N'est-ce pas, pour la plupart d'entre nous, le principal motif de changement ? Observez bien votre propre mode de pensée et vous verrez le mécanisme qui régit votre propre vie, votre comportement. Tout bien considéré, est-ce cela le changement? Le changement, la révolution, procède du connu vers l'inconnu, où il n'y a nulle autorité, mais peut-être l'échec total. Mais si vous êtes assuré de réussir, d'arriver au but, d'être heureux, d'avoir la vie éternelle, alors il n'y a pas de problème. Alors vous poursuivez cette ligne d'action familière qui est celle où vous êtes toujours au centre de tout.